Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées, bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis, auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 novembre 2019. On vous parlera plutôt longuement, plutôt de façon sympathique, de la sortie d'un livre, une fois n'est pas coutume. Un livre qui s'intitule « Une révolte en jaune », c'est une production signée Rouen dans la rue, on les a rencontrés un peu plus tôt dans la semaine, et il vous propose d'aller les rencontrer ce vendredi 22 novembre, donc ce soir, du côté du Diablo Corps, à partir de 19h, c'est à Rouen, donc 100 rue Saint-Hilaire, bah, pour aller peut-être vous procurer ce livre, une révolte en gilet jaune, échanger avec eux, et puis en savoir un peu plus. Si cela vous sied, on vous diffusera également l'annonce pour notre soirée que nous organisons la semaine prochaine. Principe Actif part en live, ça se passe du côté du Cube, ça se passe mercredi prochain. On en saura plus dans cette émission également. On passera du côté de vos messages répondeurs. Et puis le tout vous sera servi avec des bons plans, du bon son, de la bonne humeur. En tout cas, on l'espère. On va gentiment se dire bonjour avec un chanteur que j'affectionne tout particulièrement, Sofiane Saïdi, accompagné de Mazalda. Le morceau s'appelle Burkan. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
مرة نحكي مرة نسكسي مرة خلايا مرة نبقى وحدي coucher ou ça fera te corps.
Sofiane Saïdi et Mazalda, le morceau c'était Bourkane.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, like t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 sur Rouen. 95.9 dans le sud de l'Eure et 99.1 sur Rouen, évidemment.
Toute la troupe d'Acapella sera sur la scène de l'espace des Archers Pontins de Pont de l'Arche pour un impro-show exceptionnel. Tout au long de la soirée, les improvisateurs devront relever des défis lancés par le maître de cérémonie. Et vous, public, attribuerez des points à vos improvisateurs préférés. Une lutte infernale pour le meilleur et pour le rire. Entrée 5€ gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation en ligne sur le site acapellaimpro.com ou par SMS au 06 61 70 25 23 06 61 70 25 23. Plus d'informations sur acapellaimpro.com.
Bonjour, je vous informe de la création d'un groupe de parole autour du handicap visuel. Il a pour but d'échanger entre mâles ou non-voyants et aidants. Nos permanences ont lieu à la Maison de la Santé un mercredi par mois à 13h30. Nos prochains rendez-vous, mercredi 11 décembre, 8 janvier et 5 février. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour nous contacter, Christine au 06 06 41 56 17, Fabienne au 06 65 63 63 39. À bientôt.
Oui, bonjour. Je pense que je suis à principe actif, mais comme c'est pas noté maintenant, ben je ne sais pas, mais enfin je laisse mon message. Voilà, ce serait pour que vous passiez à l'antenne un spectacle qui va avoir lieu le samedi 30 novembre à la salle des fêtes de Normanville. Donc la troupe d'opéra bouffe s'appelle les Brigandingues et le spectacle s'appelle le Piano de la gare. Et donc, nous le donnons samedi 30 à 20h30 à la salle des fêtes de Normanville. Les Brigandingues. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour. Bien, c'est pour une annonce. Alors, nous annonçons ensemble la CGT et les Gilets jaunes. Nous annonçons une rencontre. Voilà, CGT Gilets jaunes d'Evreux. Avec la projection du film « Je veux du soleil » suivi d'un débat et on va dire bilan et perspective sur les divergences, enfin les différences et les éventuelles convergences en fait qui peuvent se produire. Et cela aura lieu le vendredi 22 novembre qui vient à 18h dans les locaux de l'UDCGT de l'Eure. 17 terres rue de la Côte Blanche, 27 000 Évreux, à Saint-Michel. Voilà, et donc toutes les personnes qui seraient intéressées par cette rencontre sont les bienvenues. Voilà, merci bien, principe actif, ciao.
Principe actif part en live, un exercice radiophonique de haute voltige. Six valeureux animateurs, oui, six, comme seul principe actif pouvait vous offrir, croiseront les micros avec trois. Oui, trois groupes musicaux, Unschooling, Air Patterson, George, qui vous livreront en live et sans filer leurs plus beaux morceaux. Principe actif part en live, un régal pour vos oreilles et pour vos yeux, accompagné des éditions Densité. Rendez-vous en totale gratuité, et ça fait comme jamais, le mercredi 27 novembre, dès 19h30, au club Autangram à Évreux.
Mercredi, rendez-vous mercredi prochain pour le principe Principe Actif part en live et sur notre répondeur pour laisser vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos, vos annonces d'événements. Ça se passe au 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. On se fait évidemment un plaisir de diffuser vos annonces et vos messages de bon matin dans la matinale. Donc prochain rendez-vous pour vos répondeurs lundi à partir de 8h05, on va dire. On repart en musique avec un peu d'humour, Trotsky Nautique, le déterminisme social.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
Je veux faire chirurgien pour avoir une grosse bagnole.
Pour faire des études, il faut de l'argent. Tu feras comme ton père, tu iras bosser à l'usine. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
Je veux faire avocat pour défendre la mafia.
Les écoles de droit, ça coûte de l'argent. Tu feras dealer, tu crèveras dans le caniveau.
C'est le déterminisme social. Au mieux, tu finiras prof. C'est le déterminisme social. Au mieux, tu finiras prof.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
Je veux être cinéaste comme Claude Chabrol.
Mais pour faire des films, il faut de l'argent. Tu feras animateur vidéo en MJC. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?
Je voudrais être chômeur, le travail ça me fait peur.
Mais l'alcool ça coûte de l'argent. Tu feras de l'intérim ou des emplois aidés.
C'est le déterminisme social. Au mieux tu finiras prof. C'est le déterminisme social. Au mieux tu finiras prof.
Déterminisme social. 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 Déterminisme social.
C'est le déterminisme social. Au mieux tu finiras prof. C'est le déterminisme social. Au mieux tu finiras prof.
Trotsky Nautique avec le déterminisme social.
Oh bah c'est bien, c'est bien. Et c'est, ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être...
Oui. Principe Actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, ça, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, Principe Actif.
Le média indépendant Rouen dans la rue sort un livre sur les gilets jaunes. Les textes s'appuient sur l'expérience directe que les auteurs ont pu faire de cette bataille sur le rond-point des vaches notamment, qu'ils ont rejoint dès le premier jour et aussi lors des manifestations rouennaises, régionales ou parisiennes. L'ouvrage propose aussi une lecture plus large du mouvement en essayant de saisir sa particularité et son inventivité en repérant les gestes et les pratiques par lesquels les gilets jaunes ont ouvert des voies qui leur étaient propres ou se sont réappropriés de façon originale des manières de faire déjà existantes à mille lieues de la routine politique des organisations, des partis, des syndicats et même des radicaux. On y retrouve aussi près d'une centaine de photos au rond-point des vaches de Tourville, de Barentin ou des manifs de centre-ville. À Rouen, on va écouter un premier échange réalisé un peu plus tôt dans la semaine avec un des contributeurs du média Rouen dans la rue, un des deux auteurs de ce livre, Une révolte en gilet jaune, que vous pouvez retrouver dès ce soir du côté du Diablo Corps à Rouen, 100 rue Saint-Hilaire, puisqu'il y a une soirée de lancement qui est prévue ce vendredi 22 novembre 2019.
Bah déjà pour commencer, nous on, avec le média Rouen dans la rue, on a suivi le mouvement dès ses débuts et même dès ses premiers balbutiements, puisque on s'est penché un peu sur la question fin octobre début novembre 2018, quand en gros ça a commencé à se bouger sur les réseaux et ce truc là, cet objet politique totalement inconnu qui commençait à grandir. Et en fait initialement ça a été quand même un truc perçu avec beaucoup de précautions, voire d'hostilité de la part des mouvements, on va dire, radicaux et révolutionnaires, on va dire, pour le dire vite, enfin même de la gauche de manière générale. Et nous, on a fait un pas de côté justement vis-à-vis de tout ce vent, disons, d'hostilité, en se disant au contraire, non, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait être vraiment intéressant, et il y a une espèce de raison assez transversale, et en même temps, les formes que les gilets jaunes promettent sont quand même plutôt intéressantes. Ils veulent bloquer la France, ils veulent occuper des zones commerciales, etc. Peut-être qu'il faut aller voir et ne pas faire de jugement trop hâtif. Et du coup, nous, on a été dès le début, au plus près de ceux qui luttaient. Et du coup, le 17 novembre, on a été sur les, directement au rond-point des vaches, en fait. Voilà. Et du coup, de là, on a commencé à, en tant que Rouen dans la rue, on a commencé à suivre le truc. Et en fait, très rapidement, on est devenu aussi gilets jaunes, quoi. Donc, en fait, ça a été pendant l'année qui s'est écoulée. Là, on a toujours été un peu à cheval, un peu entre. On va dire alimenter le média tout en étant réellement protagoniste du mouvement. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de relater ce qui se passait, tout en donnant une voix aussi de l'intérieur, quoi, avec nos propres analyses, etc. Et du coup, voilà, un an après, on s'est dit qu'avec ce qu'on avait vécu cette année, il fallait absolument ancrer ça sur le papier, mais sur un objet qui serait moins périssable que justement un magazine ou un petit journal, ou puis même l'espèce de vortex du réseau social, quoi.
Pour rester sur le bouquin, puis donner envie aux gens de se le procurer, ou en tout cas de le feuilleter, qu'est-ce qu'on y retrouve? Il y a pas mal de photos, mais il y a aussi pas mal de textes. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup le feuilleter, mais ce que j'ai pu en voir sur les réseaux, sur internet notamment, il y a un retour presque historique, notamment sur les ronds-points. Alors voilà, ce que c'est que les ronds-points, comment ça a supplanté l'histoire de la priorité à droite en France. Et puis cette idée que ça représente des choses, de bloquer des ronds-points, de bloquer les flux. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre un peu parce que là, je focus peut-être sur les ronds-points, mais en même temps, c'était essentiel dans le mouvement. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ce livre?
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement l'envie d'écrire ce bouquin, elle est venue au cours du mouvement, je dirais peut-être au mois de juin, juillet. C'était un moment un peu d'accalmie, on s'est dit on a vécu un truc de fou, et peut-être, enfin même on est certain, on a cette certitude, c'est de se dire qu'on a été les protagonistes et les témoins du processus révolutionnaire le plus incroyable de notre existence. Et que rien que pour ça, et son caractère historique, il méritait d'en tirer un peu des analyses, des leçons, mettre ça sur le papier, rendre hommage aussi, parce que l'idée, c'était que avant tout ce bouquin serait adressé aux gilets jaunes avec qui on a lutté, et parce que déjà c'est un truc qui est édité en mode pire, enfin auto-édité, auto-distribué, donc c'est pas ce qui est, parce qu'il y a une lecture abondante, enfin si vous allez à l'Armitière ou à la FNAC, il y a des quinzaines, vingtaines d'ouvrages sur les gilets jaunes, souvent écrits par des gens qui n'ont pas vraiment vécu le mouvement ou qui l'ont vécu par procuration à travers les différents articles, etc., et qui est souvent adressé plutôt à, pas aux intellectuels, mais à des gens qui n'ont pas forcément fréquenté les ronds-points, et c'est très bien. Mais nous, on voulait prendre un peu le contre-pied de ce truc-là et d'adresser le bouquin à ceux qui l'ont vécu. Et du coup, ce qu'on y retrouve, forcément, c'est une espèce d'analyse, qui vient après coup et qui essaye d'expliciter un peu plus ça a été quoi les formes par lesquelles le mouvement a eu une telle puissance. Du coup, on revient effectivement sur l'importance de Facebook, enfin des réseaux sociaux dans ce mouvement, les différentes raisons. Même si en fait c'est un peu ça, c'est un truc qui s'explique après coup, et on veut pas réduire le mouvement à ses pures explications rationnelles et socio-économiques. Il y a bien quelque chose qui relève de la magie, et justement de la magie révolutionnaire, qui fait que on ne peut pas uniquement isoler les causes, quoi. C'est pas les seules explications du surgissement des gilets jaunes. Donc il y a ça, il y a les conjonctures qui ont pu amener à un tel mouvement. L'importance de Facebook, la question des ronds-points et de la pratique du blocage, et la question des émeutes, du caractère incontrôlable et de la violence populaire qui s'exprimait à travers ce mouvement. Et puis spéculations ou sentiments quant à l'avenir, ou qu'est-ce que ça a modifié dans le fond, quelle modification du paysage politique français ça a provoqué. Du coup, c'est un espèce d'aller-retour entre une espèce d'analyse un peu théorique, mais sur fond d'expérience vécue, Voilà, donc ça c'est un aller-retour permanent qu'on retrouve. Il y a deux grosses parties qui se recoupent parce qu'on a été principalement deux à l'écrire, et puis bon voilà, il y avait un peu des, il y avait des subtilités qu'on voulait absolument garder, donc on n'a pas réussi à faire un seul texte. On est un peu des, on est un peu déboulé à ce niveau-là. Du coup il y a des choses qui se recoupent, mais il y a quand même des singularités. Et voilà, effectivement il y a beaucoup de photos, et l'idée c'était vraiment de mettre des photos quasi enfin uniquement locales quoi. Donc il y a Rond-Point des Vaches, Tourville, Barentin, Bourterouille, les manifs en centre-ville, et sur 100 photos il y en a avoir peut-être 6 de Paris, mais le reste c'est que du, c'est que de l'agglo rouennaise, voilà.
Justement, je voulais revenir là-dessus parce que vous parliez des autres ouvrages qu'on pouvait retrouver dans d'autres librairies qui sont sortis rapidement. En fait, on a l'impression le mouvement est toujours pas fini, et puis il y a eu déjà un certain nombre d'écrits. L'intérêt aussi de votre travail, c'est qu'il s'appuie avant tout sur le territoire, sur un aspect local. Donc vous l'avez dit, notamment le Rond-Point des Vaches à Rouen, mais un peu plus loin dans la région, quelques clichés à Paris. Mais voilà, c'est aussi ça la force de ce propos-là, c'est de s'intéresser à ce qui s'est passé juste à côté de chez nous, très concrètement.
Ouais, c'est ça. Et surtout, ouais, effectivement, dans les différents bouquins qu'on peut sortir assez rapidement, on sent que, bon, bah voilà, beaucoup de gens ont surfé un peu sur la vague médiatique, voilà, qui permet aussi de vendre du bouquin et de faire un peu de buzz à ce niveau-là, donc, c'est pas très étonnant. Et ce qu'on y retrouve, bon, voilà, il y a quand même quelques ouvrages, tout est pas acheté dans ce qui est sorti en librairie, mais effectivement, le point commun, souvent, c'est quand même le fait de, ouais, de. C'est souvent des espèces de fantasmes, notamment gauchistes, qui ont pu être calqués sur ce mouvement-là, et du coup dans les bouquins qui ressortent, voilà, c'est des choses qui relèvent un peu de la spéculation et qui sont pas vraiment à partir d'une expérience vécue. Je sais pas, je repense à un bouquin justement qui s'appelle La Vie en Jaune, qui revient sur l'expérience des assemblées, donc ça a été la tentative de certains ronds-points de mettre en commun, enfin de se retrouver pour essayer de penser je sais pas, une organisation par assemblée, enfin voilà, l'espèce de fantasme conseilliste et assembléiste. Et ça, par exemple, pour nous, on n'a pas développé tant que ça la critique, mais pour nous, ça c'est l'un des écueils, enfin c'est pas un écueil en tant que tel, mais ça a été l'une des captations gauchistes du mouvement. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens qui se sont raccrochés au mouvement un petit peu plus tard, et c'est pas grave en soi, au contraire, vaut mieux y aller quand on le sent. Mais le problème, c'est que certains d'entre eux ont tenté de rabattre sur le mouvement des espèces de vieux réflexes dont le mouvement s'était émancipé initialement, quoi. Et du coup, voilà, c'est pas étonnant que certains bouquins, notamment, voilà, de la classe plutôt journalistique, etc., soient très attachés à ce genre d'expérience, puisque c'est des éléments qu'on connaît déjà, c'est des formes qu'on connaît déjà. Et nous, au contraire, on a essayé d'accentuer dans ce bouquin tout ce qui, justement, a échappé, à la grammaire politique habituelle, y compris celle de la contestation, je sais pas, de ce qu'on avait connu, Nuit debout, les formes, d'assemblée, d'occupation de fac, les mouvements qui se sont toujours, organisés un peu, avec une certaine centralité à la parole, alors que là, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'était que c'était plutôt une centralité à la spontanéité, à la rage et à l'efficacité même. Enfin voilà, c'est pas étonnant que le mouvement ait pris une ampleur, ait été hyper puissant pendant les 2-3 premières semaines justement de ce mouvement, parce que c'était la rage et puis l'efficacité qui a commandé les gestes les plus incroyables, et du coup, bon voilà, nous on a essayé de faire la part des choses là-dessus et ne pas uniquement calquer nos espèces de fantasmes, on va dire, de propres à, je sais pas, y compris la gauche radicale, sur ce mouvement, quoi.
On reviendra peut-être sur notamment l'assemblée des assemblées, peut-être qu'on aura l'occasion de développer un dessus, mais juste un détail un peu technique et pratique, ça, vous l'avez un peu évoqué, mais en combien de temps, quel laps de temps ça a été écrit, par quel moyen vous l'avez sorti, publié un bouquin, édité un bouquin, c'est pas si simple. Enfin voilà, un peu de concret, un peu de matériel, parce que on est quand même dans une société matérialiste et on peut pas y couper.
Enfin, il y avait une telle envie d'écrire ce truc qu'en fait on s'est bougé le cul, ça a été assez rapide finalement. Voilà, il y a deux textes qui ont été écrits, avec cette incapacité à les mettre en commun finalement, du coup on s'est dit qu'on publierait les deux. Des amis photographes qui ont suivi le mouvement, ils ont gracieusement bien voulu nous filer leurs photos pour d'ailleurs c'est ce qui fait aussi une grande part de la réussite de l'ouvrage. Après moi personnellement je l'ai mis en page avec InDesign, très concrètement je suis allé chez l'imprimeur Rive Gauche que je connais bien, j'ai fait ça, c'est du numérique parce qu'on l'a pas imprimé en suffisamment d'exemplaires pour faire de l'offset, donc voilà c'est une impression numérique et puis mais qui est finalement un très bon rendu. Et du coup on le vend 6 euros, ce qui est en fait le prix de revient. l'impression. Voilà, et puis pour ceux qui veulent, ils peuvent nous filer 10 parce que ça permet de couvrir les différents frais que ça engage au-delà de l'impression, justement. Que ce soit tous les dons qu'on a pu faire aux différents photographes qui ont contribué ou même à d'autres personnes. Et puis pour couvrir un peu plus largement les frais du média, parce que Rouen dans la rue, c'est aussi beaucoup de déplacements, des saisies de matériel par la police, enfin bon, différents problèmes qui impliquent un peu la nécessité financière, quoi. Voilà.
La grande idée aussi de ce livre, on le rappelle parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit pour le moment dans l'échange, mais c'était de pouvoir aller l'offrir, le distribuer en tout cas aux acteurs, aux Gilets jaunes sur le rond-point des Vaches à l'occasion de l'anniversaire des 1 an du début du mouvement. Donc c'était ce week-end, ça nous amène gentiment pour avoir un petit peu votre regard sur ce qui s'est passé ce week-end et localement et peut-être plus globalement. Mais juste toujours pour faire le lien avec le bouquin. Comment ça s'est passé ce week-end sur le rond-point des Vaches, autour de la question du livre, comment ça a été reçu, très très simplement, comment s'est passé ce moment-là?
Effectivement, ça fait une semaine ou deux, je crois, qu'on a déjà communiqué sur la sortie du bouquin, donc il y a déjà pas mal de gens qui nous l'ont pris par différents moyens, à distance, etc., lors des AG sur le rond-point et tout ça. Mais effectivement, on voulait marquer le coup ce 17 novembre parce que on voulait que le bouquin revienne à l'endroit où finalement il est né, en quelque sorte. Et du coup, voilà, on avait dit aux gens, on sera là-bas, on aura un carton, mais c'était pas la raison principale de notre présence. Nous, on y allait aussi pour fêter les 1 an et passer ce moment avec les Gilets jaunes. Donc effectivement, il y a eu pas mal de bouquins qui ont été pris, vendus sur place, les gens étaient hyper contents. Parce que on s'imagine aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu la flemme de lire, et puis peut-être qu'ils vont lire 3 pages et vont se dire c'est un peu chiant, au moins on est content, il y a les photos. Et effectivement, vu qu'il y a une grosse majorité aussi de photos du rond-point des Vaches, les gens étaient vraiment très très contents. Et sur le rond-point des Vaches, c'était hyper bien. Il y avait près de 200 personnes. Il y avait une présence policière totalement disproportionnée. Parce qu'en gros, ce week-end, il y avait un peu le mot d'ordre qui était le 16, samedi 16, tout ça à Paris. Et le dimanche, pour ceux qui peuvent, on comprend les ronds-points, etc. Après, indéniablement, il n'y a plus autant de gens qu'au début. C'est pas un mystère. Mais pour autant, il y avait quand même des gens qui envisageaient de se retrouver sur le rond-point des Vaches. Mais il y avait pas uniquement des gens du secteur, quoi. Il y avait aussi des gens, de Fécamp, de Dieppe, des gens de la région. Du coup, on s'est tous retrouvés là-bas et la préfecture de Rouen avait posé un arrêté préfectoral d'interdiction de manifester en centre-ville le samedi et de se réunir au rond-point des Vaches le dimanche sur un rayon de 500 mètres autour du rond-point. Et en fait, sachant que ils savaient très bien que nous on envisageait fêter l'anniversaire comme il se devait, ils avaient mis un dispositif policier absolument incroyable. Je crois qu'il y avait 7 fourgons de gendarmes mobiles, 3-4 fourgons de police, des voitures de la BAC. Ils faisaient la démonstration qu'ils étaient là pour faire respecter cet arrêté préfectoral. Mais finalement, sur le rond-point des Vaches, il y a une situation particulière qui est, depuis qu'on a perdu le centre du rond-point, on n'a pas vraiment l'autorisation, mais il y a une espèce de statu quo où on peut se retrouver sur le parking qui est juste à côté parce que c'est un parking privé. Du coup, pour eux, c'est un peu plus la galère que de faire respecter un arrêté préfectoral, sachant que ça couvre pas uniquement la voie publique. Du coup, on a pu se retrouver là sur ce petit parking en mode bonne ambiance, ça a construit une cabane et tout, c'est vraiment hyper chouette. Et évidemment, les gens voulaient reconquérir le territoire qui est le leur, à savoir le centre du rond-point. Et donc vers 16h, 16-17h, il y a eu un petit move pour aller reprendre le milieu du rond-point et allumer un feu là-bas. Et donc il y a eu une réponse immédiate, les gendarmes mobiles se sont casqués, ils ont avancé, ils ont gazé, et ils sont arrivés jusqu'à l'endroit de l'espèce de pique-nique, quoi. Et finalement il y a eu une espèce de négociation et on a pu remballer, et puis ça s'est un peu terminé comme ça. Mais ils ont juste ce qui est quand même notable, c'est la disproportion, la menace encore très présente et permanente que constitue le mouvement Gilets jaunes, quand bien même on n'arrête pas de matraquer le fait qu'il est mort et qu'il s'essouffle et que machin, n'empêche que sur un dimanche après-midi au rond-point des Vaches, on mobilise je pense qu'il y avait bien, un escadron où il y avait au moins 80 hommes de gendarmerie et de police mobilisés. Donc c'est quand même qu'il y a bien quelque chose qui est toujours présent. Et de toute façon, ce qu'on s'était dit, nous, depuis le début, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse politique à ce mouvement. Il y a eu uniquement une réponse répressive. Donc, de toute évidence, les raisons de la colère, elles sont toujours bien ancrées, elles sont toujours ultra présentes. Et même peut-être que les blessés, la répression disproportionnée, elle ajoute en quelque sorte aux raisons de la colère. Et que voilà, il manque pas grand chose pour que ça reparte de plus belle, etc. Même si, oui, aussi de toute évidence, il y a la fatigue, la répression, des gens qui ont pris des différentes galères judiciaires, qui ont été blessés, etc., etc. Ou même qui, voilà, qui sont contraints de fait de reprendre une espèce de vie quotidienne un peu plus normée. Mais voilà, les gens sont toujours là et on peut dire que le premier anniversaire, le coup a été marqué. Voilà, sur Paris, ça a été, ça a pas été incroyable, mais on peut dire que l'ordre n'a pas régné sur Paris samedi. Dimanche, il y a quand même eu des choses partout en France, y compris à Paris d'ailleurs. Donc, on peut pas dire qu'il y a un espèce de second souffle, mais en tout cas, c'est unique et inédit et historique ou ce qu'on veut, le fait qu'un mouvement dure pendant une année entière et que au bout d'un an, il y a encore une telle détermination et que c'est ça, tu vois, genre dans les médias, on nous dit, voilà, il y a juste 25 000 ou 30 000 gilets jaunes qui se sont mobilisés ce week-end. Voilà, de toute façon, maintenant, c'est juste le chaos, il n'y a plus de revendications, machin. Mais en fait, il y a aussi l'envers de ça, c'est, mais en fait, un an plus tard, il y a encore des milliers de personnes qui sont prêtes et qui ont encore le courage d'aller manifester là où c'est interdit, là où on leur envoie juste des LBD et du gaz, et les gens tiennent encore des ronds-points, des 200 sur le rond-point des Val. Enfin, il y a encore des choses qui sont absolument hallucinantes, et c'est plutôt de ce côté-là que nous, on veut regarder, quoi.
Cette semaine-là, non, ce qu'on nous amène n'est pas bon. Pardon, mais la loi Macron, c'est quoi cette loi à la con? Réjouissant tant les patrons, réduisant tant l'état de con. Cerné à devoir se faire berner par ces derniers dons, c'est le métier donc sans pitié quoi qu'on. Nantise les nantis, on la hantise de ces tas de cons. Qu'ils exploitent en souhaitant qu'ils soient gentils, cela va sans dire et pas contre. Ariant, argant qu'ils ont des droyants, n'aurait même qui y croissant. Rire veulent-ils décroissant avec leur augmentation? Où va-t-on? Se questionne les patrons, n'attendons pas droit au pardon, à un peu de considération. Là-dessus, l'algus manu avec la loi en adéquation. Tu peux pas plus que pour faire la choix de Philippe Aguillon. L'État suce le phallus du MEDEF, lui fait une fellation. L'État use et abuse des lois contre les populations. La NI, la MI, le TAFTA et la loi Macron. L'État ruse et accuse les voix, s'élevant contre ses actions. L'État serait le dernier bastion contre la loi des patrons. Mais l'État qu'on connaît est traître comme Emmanuel Macron. L'État est malhonnête mais dans un sale état des fractions. Les plus précarisés et malmenés de la population.
Bah Manu, tu descends?
Tu vas si bas que là je vois pas le fond. Tu descends tant que si on descend, je n'y verrai pas d'affront. Quand je vois ce que ta loi fonde en droit, est-ce que c'est des gaffrons? J'aimerais que ce soit toi qui en fasse les frais. J'aimerais que tu paies le prix de tes actions. J'aimerais que tu te retrousses les manches. J'aimerais que tu bosses le dimanche. J'aimerais que tu bosses de nuit sans choper pour autant de compensation. Que t'y sois pas étanche, que tu vois ce que tu déclenches. Car tout soit que malgré ta tête d'ange, tu te comportes en sale con. Tu ne mérites pas d'ovation. T'obéis aux sommations européennes, américaines. Nique les week-ends sans consommation. Pourquoi se reposer si on peut bosser? Se poser si on peut foncer? Acheter les conneries qu'on sait, entre autres actions. L'attraction du toujours plus comme mode de production. L'introduction d'une routine qui nous use jusqu'à l'acclimatation. C'est déjà le cas, mais ta loi fera con. Touchera le fond jusqu'à mordre à l'hameçon. Même si nous craquons, travailler plus pour produire plus et gagner plus pour acheter plus, pour travailler plus et faire gagner plus de fric au patron. Faire monter le prix des actions, qu'on en vante l'élévation. Déguste, pécule pendant que recule toute raison de célébration. Pour les garçons et filles qui s'échinent dans les usines de fabrication. Des produits inutiles qui culminent malgré l'autre insatisfaction. On fulmine contre mille et une vie que rien n'illumine. On rumine les mêmes rêves qui subliment, subissent la distraction. Dont on est tous victimes du fait des sollicitations incessantes de pubs envahissantes et de leurs invitations pressantes et oppressantes à consommer sans modération. On bosse pour payer des smartphones devenus objets de passion. Pour en revenir à Macron et à sa loi à la con, soutenu par le PDG de Price Minister, pourtant Mystère était Charlie, mais passons. La loi prévoit la réduction, voire la suppression du délai qu'avaient les locataires d'une habitation. En cas de congé, vente spéculative, passage à l'action du proprio qui vire la mif pour faire du bif à foison, pour vendre pour un paxon. Une loi que donc nous axons sur l'aide aux patrons et gars conçus vivent de l'exploitation.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron,
merci Macron,
merci Macron,
merci Macron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Voilà, merci Macron par le rappeur L'Inconsolable. C'est un peu antidaté parce que évidemment c'était au moment où Emmanuel Macron était encore ministre sous le mandat de François Hollande, mais c'était un petit clin d'œil comme ça parce qu'on le remercie tous quelque part ce cher président Emmanuel Macron.
On fait un peu le bilan, mais vous étiez en train de quelque part de le faire de ces un an. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et puis vers quoi on va? Parce que on sent bien que, notamment du côté de l'État ou d'autres décideurs politiques, mais aussi des médias, on aimerait, ça faciliterait les choses, que ça débouche politiquement, voilà, que ça aille chez un tel ou chez un tel, ou pourquoi pas que ça construise une nouvelle structure, une nouvelle organisation politique. Je suis pas sûr que ce soit ça que souhaitent les Gilets jaunes. Quelque part, on les contraint à aller vers quelque chose de cet ordre-là. Vers quoi on va avec le mouvement, en tout cas votre analyse à vous, parce que évidemment il y a des milliers de personnes qui auraient surtout des choses un peu différentes à raconter là-dessus.
Ben il y a une formule dans le livre justement qui est alors je saurais peut-être pas la redire exactement, mais c'est le meilleur ne pas savoir où l'on va, c'est le meilleur moyen d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que dans la mesure où ce mouvement a généré une grande part d'inconnus, c'est peut-être en elle que se situe justement l'espèce d'espoir le plus incroyable, et que, enfin nous en tout cas avec nos yeux, enfin avec notre, je sais pas, la espèce de référence ou tradition révolutionnaire dans laquelle nous on s'inscrit, c'est sûr que pour nous c'est pas la structuration politique qui nous intéresse dans ce mouvement-là. Au contraire, on pense que c'est plutôt l'espèce de menace qui la guette toujours et qui en fait est une manière de la pacifier et puis de l'éteindre. Mais au contraire, ce que le mouvement en lui-même a permis de recomposer, de relier, de ressouder en termes de, je sais pas, élan de solidarité, fraternité, disposition au conflit, auto-organisation, autonomie politique, enfin bref, tout ce genre de choses qui en fait sont pas des gains politiques au sens institutionnel, mais qui sont des bouleversements de fond. Et justement, dans l'une des conclusions des textes, c'est le terme révolution en chinois, je sais pas parler chinois, mais en tout cas le terme, en tout cas dans sa racine, signifie transforme vie. Et pour nous, c'est ça le processus révolutionnaire, c'est pas tant son objectif au sens institutionnel qui nous intéresse, mais plutôt en quoi le processus, c'est celui qui vient bouleverser des vies individuelles et collectives, qui vient bouleverser aussi l'imaginaire de la lutte et de ce qui est possible de faire en fait quand on est ensemble, etc. Et pour nous, c'est, voilà, le gain, il est là, il est dans le fait que non seulement ça tienne encore, et que dans ce qu'on a vécu cette année, ça, il y a des changements radicaux de fond pour des milliers d'existences, voilà.
Oui, je sais pas si je peux me permettre cette petite sortie, mais c'est quelque part privilégier, ou en tout cas constater la transformation ou la révolution sociale avant éventuellement une transformation ou une révolution politique. Et quelque part le changement par le bas, par la base, et pas que ça vienne d'en haut. Ça, dixit le bouquin d'Emmanuel Macron, Révolution, ça fait tellement sourire 2-3 ans après cette campagne présidentielle et la sortie de ce bouquin-là. Bon, enfin, fait sourire oui et non, parce qu'il y a quand même eu pas mal de blessés et il s'est passé un paquet de choses qui donnent pas très envie de sourire, mais je sais pas, il était peut-être visionnaire, ce type là c'est assez incroyable. Avant de conclure, je voulais juste revenir, puisqu'on parlait un peu de vers quoi ça pouvait aller, des diverses formes, voilà, des tentatives, des questionnements, des réflexions, des actions d'auto-organisation. On a parlé un peu plus tôt, quand on évoquait le bouquin, de l'Assemblée des Assemblées. Vous aviez l'air de dire que c'était quelque part un référentiel ancien, qui n'était pas forcément celui plus novateur qu'avait pris le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu ce que vous disiez. Et en même temps, vu comme ça un peu de l'extérieur, on se dit que c'est plutôt intéressant comme façon d'envisager les choses, quelque chose qui tournerait, où on enverrait des émissaires, pas des élus, mais des délégués, voilà, avec des feuilles de route à suivre, rond-point par rond-point, assemblée par assemblée, qui se réuniraient en plus grande assemblée, pour faire avancer le mouvement, pour faire avancer les revendications, les propositions, en tout cas la tentative, on la voit, de se constituer dans une forme à l'échelon national. Voilà, il n'y a peut-être pas de questions au bout de cette remarque, mais voilà, développer un peu sur l'Assemblée des Assemblées.
Déjà, je dois préciser que moi, j'étais présent à aucune des Assemblées des Assemblées, mais j'ai eu beaucoup de retours, et puis on s'est quand même intéressé à la question. Déjà, le premier geste qui a été celui de l'invitation à la première Assemblée des Assemblées, ça a consisté à partir du principe que il y avait des assemblées disséminées sur le territoire et que en gros les ronds-points s'organisaient en assemblée. Ce qui était déjà une première erreur, ou en tout cas une erreur relative, dans la mesure où par exemple nous, les différents ronds-points qu'on a fréquentés ici autour de Rouen, il y a eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'il y ait des formes, et assemblée encore c'est un gros mot, mais qu'il y ait des formes de discussion collective qui soient organisées sur ces ronds-points là. Avant ça, ça relevait que ouais, je te dis, de la une espèce de spontanéité, de proche en proche, un post Facebook, faut ramener des palettes, t'as 3 likes, 4 commentaires, ok j'arrive, enfin voilà, ça a été un espèce de truc comme ça hyper spontané. Et donc tout le fantasme, parce que du coup la nature de l'appel de l'assemblée des assemblées, c'était quand même relié à une tradition politique qui est celle qui est, enfin voilà, l'idée que tout pouvoir pourrait être disséminé localement dans des assemblées locales, etc.
Ce qu'on appelle le fédéralisme.
Voilà.
En tout cas, cette idée-là, quoi.
C'est ça. Et du coup, le problème, c'était que cette démarche-là, c'était quand même la volonté de remettre au centre de la décision et de l'action la parole, c'est-à-dire le moment, mettre sur un espèce de piédestal le moment où tu prends des décisions, ces décisions-là qui sont collectives, etc., etc. Et qui en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Enfin, je juge pas du tout sur la qualité, sur la vocation de ce truc-là. C'est juste que de fait, c'était un peu décalé de la réalité du mouvement et que forcément, ça s'adressait aux gens qui avaient ce schéma politique-là et en l'occurrence plutôt ce qu'on va appeler, pour caricaturer, les fractions plus de gauche, enfin qui avaient plus un logiciel syndical ou de gauche extra parlementaire, etc. Et en fait, pour la petite histoire, c'est qu'à Rouen il y a eu il y a eu les ronds-points, et puis un petit peu après coup il y a eu un groupe qui s'appelait Gilets jaunes Rouen Centre, et voilà, qui en l'occurrence lui s'est organisé donc sans ronds-points, plus autour de moments de discussion. Et par exemple, ceux qui ont été parmi les Gilets jaunes de Rouen, ceux qui ont été présents à l'Assemblée des Assemblées, c'est notamment les gens de Rouen Centre. Et donc, bon voilà, et ce schéma-là, c'est très certainement répété, enfin à coup sûr, puisqu'on a eu des retours, c'est répété dans différentes villes. Donc finalement, les espèces de délégations qui allaient dans ces assemblées des assemblées, c'était, ça pouvait être très bien juste un groupe de 10 potes qui se disaient gilets jaunes, puis ils en envoient 2, puis en fait, c'était pas du tout représentatif de ce qu'était la réalité des ronds-points, et justement le fait que ça s'organisait en dehors des moments de formalisation de la parole. Et cela dit, que ça existe, etc., c'est bien que 500, 600, 700 personnes se retrouvent pendant 2 jours, échangent, essaient de... Bon voilà, c'est ça. Enfin, bon, il n'y a pas d'effet négatif. Le seul effet éventuellement négatif, c'est l'idée que ce serait la seule ou la manière hégémonique d'organiser un mouvement.
Voilà. Qui est évidemment rejeté par l'idée même du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette volonté de centraliser, même par le fait d'une assemblée, des assemblées, des décisions et une forme de pouvoir, c'est intrinsèquement pas compatible avec le mouvement des Gilets jaunes. Dernière chose, avant de vous rappeler cette soirée de lancement pour le bouquin que vous venez de sortir, vers quoi on va quand même, parce que j'insiste, mais il y a là concrètement, il y a l'appel notamment des syndicats contre la réforme des retraites le 5 décembre prochain. Est-ce que c'est entre guillemets le prochain temps fort pour les Gilets jaunes, parce qu'on sait, on a déjà entendu pas mal d'appels, j'ai un certain nombre de Gilets jaunes à aller s'associer avec les syndicats, des forces politiques d'opposition, et puis voilà, tous ceux qui ont envie de faire la grève. On sent que la séquence sociale pourrait reprendre à l'occasion de cette journée là est-ce que vous le voyez comme ça, et puis vers quoi on va après cette journée-là peut-être?
Bah pour le 5 décembre, d'ailleurs la dernière assemblée des assemblées a davantage centré son appel sur le 5 décembre et pas tant sur le premier anniversaire des Gilets jaunes, qui était quand même un temps fort. Mais effectivement, là, après ce premier anniversaire, la suite logique, c'est en tout cas en termes de calendrier, c'est le 5 décembre. Où effectivement il pourrait y avoir une espèce de sursaut de ce qui reste de force syndicale ou capacité à mobiliser, on va dire, à partir des vieilles identités, on va dire corporatistes, ouvrières, etc. Et en fait, ce qui pourrait être intéressant lors de ces journées, c'est justement la force gilet jaune ne fera pas seulement se fondre dans l'appel, mais réussir à l'agrémenter par des actions parallèles ou voilà des choses qui justement continueraient à apporter des actions, enfin, des modes de faire qui soient pas ceux uniquement de la contestation classique qui consiste à faire grève et faire des manifs, quoi, puisque de fait on arrive au bout de cette forme là et les gilets jaunes sont déjà autre chose. Donc ce serait quand même dommage que, on va dire, la perte de vitesse des gilets jaunes soit rabattu en fait sur ces formes-là, quand bien même le 5 décembre ça représente quand même un temps fort et très certainement il y aura du monde dans la rue, très certainement le pays sera partiellement bloqué, perturbé, voilà, à voir ce que ça dira. Mais voilà, en tout cas pour le truc gilet jaune, c'est très difficile à anticiper. Ce qui est sûr, c'est que la seule question, c'est comment faire en sorte que la brèche ouverte par les gilets jaunes, elle se referme jamais ou le plus longtemps possible, quoi, et que l'espèce de cycle, imprévisible des insurrections se réouvrira à nouveau dans quelques mois, années. Voilà, ça pour l'instant, on peut pas. C'est trop difficile de faire des prévisions là-dessus, quoi.
Dernière chose, on vous rappelle donc cette soirée de ce vendredi 22 novembre. Ça se passe au Diable au Corps à Rouen, 100 rue Saint-Hilaire. On peut venir acheter le bouquin, le feuilleter en tout cas, puis discuter avec vous, Rouen dans la rue. Donc on rappelle le titre du livre, Une révolte en gilet jaune, que vous venez de sortir et de distribuer sur le rond-point des vaches, comme en bouclant la boucle, une sorte de ressort aux sources. Merci à vous.
Merci, et à vendredi, j'espère.
D'écouter le groupe Chaviret avec le morceau qui s'appelle Sorbonne 1968.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, t'es mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9. Et 99 points. J'ai mis le jingle répondeur, mais je voulais mettre celui des bons plans. C'est pas grave, une petite erreur. Et pour les bons plans, on va finir cette émission avec Lou. Lou, vous êtes gilet jaune hébroïcien de la première heure. Bonjour à vous.
Ouais, salut à toi Thibaut.
Et ce matin, on vous reçoit pour annoncer notamment ce soir, vendredi 22 novembre à 18h, projection, débat, rencontre fomentée par les Gilets jaunes hébroïciens, mais aussi en lien avec la CGT. Ça se passe à l'UD CGT de l'Eure, donc c'est dans la Côte-Blanche à Saint-Michel. Discussion et projection du film de François Ruffin notamment. Je veux du soleil. Lou, en un mot déjà peut-être, quelle est l'intention un peu de cette soirée et de le choix du film, et puis surtout peut-être ce qui nous intéresse davantage au-delà du film de Ruffin, c'est pourquoi faire ça avec la CGT?
Parce qu'en fait, on a commencé fin décembre, début janvier, en fait, on a fait un sondage parmi les Gilets jaunes d'Evreux qui faisaient partie du groupe Gilets jaunes Pacifique Evreux. Et on leur a proposé, en fait, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on aille voir la CGT, qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et bon, en fait, on a eu un vote massif, en fait, de bon, bah ok, allez. Ouais. Donc, moi, je suis au passage, je suis un adhérent CGT.
Personne n'est parfait.
Voilà. C'est un syndicat, je suis syndiqué CGT. En fait, on est monté à l'UDCGT, voilà, et l'objectif, c'était à l'origine, tout simplement, de répondre à ce type de mandat, d'aller voir des gars de la CGT. Pourquoi la CGT? Parce que la CGT, en fait, on va dire, c'est d'abord, c'est un syndicat important, c'est un syndicat qui a une grande histoire, c'est un syndicat qui, en réalité, reste un des principaux syndicats de lutte pour les personnes les plus précarisées, pour les personnes les moins payées, pour les personnes... on va dire qu'ils sont dans les boulots les plus difficiles. Concrètement, il y a une base sociologique, si tu veux.
Bien sûr, c'est le syndicat majoritaire dans les classes populaires.
C'est le syndicat même majoritaire.
Même s'il y a cette défiance à l'égard, évidemment, des partis politiques et également des syndicats, que ce soit dans la population en général et plus particulièrement chez les Gilets jaunes, ce qu'on appelle la convergence Gilets jaunes syndicats, elle s'est pas faite au niveau national, ou en tout cas. Elle s'est plutôt faite ponctuellement à des échelons plus locaux. C'était pas évident, y compris sur Évreux, dans un premier temps. Il y avait cette défiance, notamment chez les Gilets jaunes, à l'égard des syndicats, même si parmi des Gilets jaunes, il y avait des gens comme vous ou comme d'autres qui étaient déjà syndiqués. C'était pas quelque chose qui coulait de source, quoi.
Ouais, la défiance, elle était réciproque, en fait.
Évidemment, ouais.
Parce que, dans l'histoire syndicale, si tu veux, le syndicat, c'est une boîte d'entreprise. Ils travaillent sur l'entreprise, ils ont une culture, tout d'un coup, tout le monde était complètement surpris de voir tout d'un coup, en fait, une mobilisation de masse, parce que les Gilets jaunes, il faut appeler ça comme c'est tout d'un coup, en réalité, une multitude de citoyens français d'origines diverses, en fait, qui font, bon, clairement, ça suffit, quoi. Ça, je veux dire, on en a marre de se faire avoir jusqu'à l'os, les mensonges, les insultes, le mépris, la précarité, etc., c'est terminé. C'est une réaction spontanée de masse qui s'est néanmoins organisée à travers quelques têtes. Hein, on les connaît, Drouet, Flyer, Ludovski, etc. En fait, il y a eu un certain nombre de personnes, mais très très vite, ça a pris feu. Hein, voilà, parce que
ces figures-là, ce sont évidemment jamais, même si certaines ont essayé, notamment par les voies électorales aux européennes, de s'imposer un petit peu comme des leaders, mais ça a toujours été rejeté par la base. Ces gens-là sont suivis. Vous mentionnez Drouet, etc. Ont été suivis notamment sur les réseaux sociaux. Évidemment, qu'ils ont un pouvoir d'inertie plus important que on va dire le gilet jaune de base. Mais ceci dit, la grande puissance aussi de ce mouvement-là, c'est de pas avoir de tête, de pas avoir d'organisation centrale. Ce qui aurait sans doute bien arrangé le pouvoir de pouvoir négocier avec certaines têtes. Mais c'est ce qu'a fait et c'est ce qui fait encore toute la puissance du mouvement et sa particularité par rapport à d'autres choses, et notamment par rapport aux syndicats, y compris la CGT, qui est quand même si elle a des découpages départementaux avec la base, il y a quand même une tête, Martinez, on le connaît, ouais. Tous, on le voit à chaque fois.
Ouais. Voilà. Non, mais il y a de grands. Alors bon, au niveau des Gilets jaunes, si tu veux, il y a de grandes têtes d'affiche, mais effectivement, personne décide pour les autres. Et c'est une force à la fois une relative fragilité et une force de ce mouvement, parce que en même temps, ça laisse tout ouvert. Et il n'est pas question, effectivement, d'avoir un leader quelconque qui commence à décider pour les autres, quoi. C'est un mouvement de ce point de vue-là qui est très horizontal, très basique, quoi. C'est vraiment l'apprentissage. En fait, c'est un retour de démocratie. Bon, moi, j'en discutais avec les mecs de la CGT, là, quand on a commencé à les voir début janvier. Je leur disais, les gilets jaunes, vous savez, les ronds-points, on est entre l'agora et le soviet. Mm-hmm. Ça veut dire que, en fait, c'est tout d'un coup, en fait, la prise de parole. C'est la prise de parole, le retour du politique dans la vie. Il y en a marre, en fait, que tout ce qui relève de la vie quotidienne, en fait, des gens qui vivent en France, hein, de toutes catégories confondues, soit systématiquement géré et décidé dans des conditions parfois les plus obscures et même, on va dire, des fois à contre-courant de ce qui a été proposé et dit. C'est-à-dire qu'on voit que les politiques vous balancent un certain nombre de propositions et vous emmenez exactement dans le contraire. En fait, voilà, il y a non seulement les gilets jaunes, un, ils en ont marre qu'on leur prenne la parole et qu'on décide à contre-courant de ce qu'ils peuvent aider, de ce qu'ils peuvent décider, mais en plus, ils n'acceptent pas le mensonge. C'est-à-dire, c'est aussi un grand mouvement, en fait, moral, les gilets jaunes. Ça suffit de mentir en France.
Le retour de l'éthique. Ça a été annoncé, au-delà d'être annoncé, analysé par certains aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que c'était évidemment pas conscientisé par un certain nombre de gilets jaunes de la première heure. Cette façon de remoraliser peut-être, quoique c'était dès le départ quelque part une des revendications importantes. Quand certains des gilets jaunes focusent par exemple sur le salaire des ministres, ce genre de choses. Ceci dit, ce qui est intéressant par rapport à ça, et on n'aura évidemment pas le temps de développer, mais peut-être en d'autres occasions, c'est que le salaire de député ou de ministre n'est rien par rapport à celui, par exemple, des gens comme Bernard Arnault ou les patrons des multinationales, sans spécifier Bernard Arnault en particulier. C'est-à-dire que... quelque part, ils se sont tournés davantage. Ils ont tourné davantage la colère et l'hostilité à l'égard des politiques, ce qui est compréhensible dans une certaine mesure, sans forcément pointer aussi celui du grand patronat et du grand capital. Alors que les slogans anticapitalistes sont arrivés un peu plus tard dans les mobilisations et les manifestations des Gilets jaunes.
C'est exactement dans le cas des discussions qu'on avait avec la CGT, c'était exactement une des interrogations de la CGT, c'est... mais vous ciblez plus Macron. Et alors, moi, j'avais la réponse et je leur ai dit, ouais, mais Macron, c'est le roi des patrons aujourd'hui. C'est-à-dire que Macron, c'est pas un président de la République, c'est le président du Conseil d'administration France. Et ce qu'il est en train de faire, en fait, avec son gouvernement, c'est ce que disait Nicolas Hulot, d'ailleurs. Il disait, en fait, les lobbies, le gouvernement n'est pas influencé par les lobbies, les gouvernements, c'est les lobbies. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à un moment donné, avec l'élection de Macron, on a eu de la manière la plus franche qui soit, en fait, un gouvernement qui est tout simplement le gouvernement des banques et des grandes industries à la place de ce qu'est une république.
On va finir là-dessus, mais j'aurais tendance à dire que quelque part, il avait annoncé la couleur avec la Startup Nation. C'était quelque part déjà dès le départ dans son programme, en fait, d'être le PDG de la Startup Nation France. Voilà, il avait annoncé la couleur. Ça ne l'a pas empêché de passer et de devenir président de la République.
On pourrait discuter dans des conditions on ne peut plus douteuses. Ouais, non, très bien joué, c'est de la politique.
On aura l'occasion peut-être de reparler de tout ça. Il nous reste 30 secondes pour dire peut-être
un mot sur le
film de François Ruffin, peut-être que vous proposez ce soir.
Non,
prise d'otage de l'antenne.
Bravo, Lou. Je veux juste rajouter un truc important. Oui, alors avec la CGT, on a eu de bonnes discussions. On est prêt à en avoir. D'ailleurs, on a des potes à FO et autres. Donc, on est ouvert au niveau syndicaliste. Il n'y a aucun problème. Moi, l'idée du truc, c'était de travailler, en fait, à l'horizontale, parce qu'il y a un moment donné, il faut ouvrir le champ, il n'y a pas de problème. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, il y a des syndicats, il y a beaucoup de points en commun en termes de revendications, dans lesquels je ne vais pas rentrer maintenant. Et donc, avec la CGT, bon, ça fait un moment, en fait, on travaille la main dans la main, c'est très cool. Voilà.
Merci à vous, Lou, d'être passé par nos micros. C'était court, un peu intense, un peu confus, on s'en excuse, il y aurait tellement beaucoup plus de choses à dire. En tout cas, vous l'aurez compris, ce soir, les Gilets jaunes d'Evreux et la CGT vous proposent cette soirée à partir de 18h dans les locaux de l'UD CGT de l'Eure, donc c'est 17 terres rue de la Côte Blanche à Saint-Michel. Soirée de rencontre, de débat, d'échange, pourquoi pas. Et puis la projection du film Je veux du soleil, dont on aura peut-être l'occasion de reparler plus tard. Merci à vous, Lou, d'être passé rapidement par nos micros en fin d'émission ce matin. Dans un instant, c'est le flash RFI Monde sur l'antenne de Principe Actif. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve lundi matin. Ciao, ciao, ciao.
son œuvre représente au mieux l'ensemble. Donc il est totalement individuel et totalement collectif.
Idée, proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 16h10 TU sur RFI.